LPM. Politique.
C'est officiel maintenant. Le lac est bleu. Bleu CAQ! Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui avant le 1er octobre avait aucun député sur 5 de la CAQ, en a maintenant 4 sur 5.
Voici Louis Lacroix et Carl Bélanger.
Bon, le lac est bleu CAQ! Louis Lacroix, chef du bureau politique à Québec pour Cogeco Nouvelles. Bonjour Louis.
Salut, il faut préciser parce qu'il y a deux sortes de bleus au Parlement, là, c'est ça le problème.
T'sais. Oui, oui, c'est par opposition au bleu péquiste. Là, c'est le bleu CAQ. Carl Bélanger, consultant et stratège. Bonjour Carl.
Salut.
Louis.
Oui.
Ben oui, parle-nous de Robert Val.
Ben écoute, je pense que le résultat démontre clairement que les libéraux ont beaucoup, beaucoup de travail à faire pour se rapprocher de l'électorat francophone. J'écoutais hier Pierre Arcan qui disait, ben les gens de Robert Val ont choisi d'aller avec le pouvoir. Oui, c'est peut-être un peu vrai, mais je pense que ça cache aussi autre chose. Tu sais, le résultat précédent en octobre dernier, c'est vrai que les libéraux étaient arrivés assez fort dans le secteur de Robert Val, mais les gens votaient pour Philippe Couillard. Ça, c'est, c'est clair. Le premier ministre a toujours. Et en plus, il y a des la loi non écrite fait en sorte que tu vas pas faire campagne dans le comté d'un autre chef. Alors, François Legault ne s'était pas rendu dans le comté de Robert Val à cette époque-là. Puis les caquistes le savaient aussi. Ils avaient présenté Denise Trudel, une ancienne députée de la CAQ qui avait été battue à l'élection précédente. Mm-hmm. Donc, ils savaient très bien là qu'on mettrait pas des efforts surhumains pour essayer d'aller chercher ce comté-là. Mais là, je pense que la vraie population a parlé. Et puis, le résultat est éloquent. Là, c'est presque 55 % des voix pour Nancy Guillemette, qui est une femme de l'endroit.
Oui, oui.
Donc, qui est bien installé dans le milieu, qui est connu. Puis les libéraux arrivent troisième quand même.
Ah, écoute,
c'est 15%, c'est pas beaucoup là. La dernière fois où le Parti libéral avait perdu ce siège-là, c'est en 2012 contre le PQ, je pense.
Oui, oui, oui. Denis Trottier.
Oui, c'est ça. Et il avait obtenu au moins le double de tout ça en termes de pourcentage. C'est une méchante débarque.
Exactement. Et puis, ça polarise beaucoup maintenant. Il y a une espèce de dessin qui se fait là, des allégeances politiques selon les régions du Québec. Les libéraux sont confinés à toutes fins utiles à l'île de Montréal, là, ou à peu près, là, à part, il y a Sébastien Proulx à Québec, mais à part ça, c'est pas mal ça.
L'île, un petit peu Laval, un petit peu Rive-Sud.
Exactement, hein? Je veux dire, autour de Montréal, il y a aucun libéral nulle part. Non. Les péquistes, eux autres, c'est le parti des régions éloignées.
Oui.
Très loin, là. Côte-Nord, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, loin.
Insiste pas trop, Louis, là, parce que le monde, comme tu sais, le monde de la Côte-Nord, de la Gaspésie, dit c'est Montréal qui est loin, c'est pas nous autres.
Ah, c'est sûr. Mais pour nous autres, la Gaspésie et la Côte-Nord, c'est pas mal loin. Et puis la CAQ, ben, c'est à peu près l'ensemble des régions du Québec et les banlieues.
Oui.
En plus de la ville de Québec, là, mais...
Puis EQS dans les milieux urbains, Île-de-Montréal et
un petit peu à Québec, là où ça va être un peu plus à gauche. Mais quand même, il y a des... On est sorti de la polarisation qu'amenait, par exemple, la question nationale au Québec.
Oui, oui.
Et on est complètement sorti de ça dans l'élection du 1er octobre et les résultats d'hier viennent confirmer ça.
Tout à fait. Carl, parle-nous de cette contre-attaque de la Chine. Là, on pense vraiment à un autre... on est dans un autre univers, là. Se rappelle que il y a cette femme d'affaires chinoise, liée bien sûr à la grande entreprise Huawei, qui a été arrêtée par le Canada il y a quelques jours à la demande des États-Unis qui demandent son extradition. Et c'est visiblement pas une coïncidence qu'un ancien diplomate canadien a été arrêté et détenu présentement en Chine.
Oui, il s'agit de Michael Kovrig, qui est un ancien diplomate qui a œuvré pendant 13 ans pour le Canada, notamment en Chine et à Hong Kong. Écoute, coïncidence, non, je ne pense pas. Donc, la Chine n'agit pas habituellement par coïncidence. C'est assez délibéré dans son cas. Évidemment, on n'a pas de preuves à ce moment-ci, mais disons que faut comprendre que dans le cas de Michael Kovrig, c'était celui qui était ce qu'on appelait le political lead, celui qui a organisé finalement le voyage de Justin Trudeau à Hong Kong en septembre 2016.
Oh.
Donc, pour la Chine, c'est une cible. clair. C'est quelqu'un qui est haut du pouvoir. Puis même si maintenant il est passé au privé, là, son employeur actuel, c'est l'International Crisis Group. Mais tu sais, en Chine, la notion de privé-public, c'est un peu plus flou qu'ici.
Oui.
Alors, Michael Kovrig était clairement, à mon avis, ciblé par le gouvernement chinois pour répondre à l'arrestation de Meng Wanzhou, qui est notamment la chef, celle qui s'occupe des finances pour Huawei, mais c'est aussi la fille du fondateur qui, lui, est très proche du pouvoir.
Oui.
Alors, tu vois... On a des circonstances qui nous amènent à penser que lorsque Jim Carr, ce matin, dans la presse, dit que les relations entre le Canada et la Chine sont solides, que ça ne va pas jeter de froid entre les deux pays, mais on pourrait peut-être se garder une petite gêne. Puis on a posé une question sur le dossier ce matin à Justin Trudeau. Écoutons ce que ça donne.
On est un pays de droit et on suit nos obligations internationales.
Oui, mais à ce moment-là, il ne savait pas que Kovrig avait été arrêté par les autorités chinoises, n'est-ce
non.
pas?
Exactement. Ouais. Il ne le savait pas. Mm. C'est arrivé ce matin. C'est l'agence Reuters qui a sorti ça. C'était confirmé par l'International Crisis Group.
Mais moi, c'est clair pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carl, mais là, les Chinois, dans le fond, vont proposer une sorte d'échange. Là. C'est une monnaie. Ils viennent d'aller chercher une monnaie d'échange, là. C'est clair.
C'est fort probable. Dans les milieux diplomatiques, on est convaincu que c'est une réponse à l'arrestation, qu'on veut s'en servir pour monnayer
la libération de l'autre.
Ben oui, exactement. Ben oui, ben oui. Écoute, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a prononcé un discours hier. Puis écoute, ce qu'il a dit, j'ai pas d'extrait là, mais il a dit essentiellement, la Chine ne restera jamais les bras croisés face aux mauvais traitements qui portent arbitrairement atteinte aux droits et intérêts légitimes des citoyens chinois. Elle ne ménagera aucun effort pour protéger les droits judiciaires des citoyens chinois. Alors, aucun effort, bien, c'est ça, on a le résultat.
Mais c'est des déclarations comme ça qui font en sorte que le juge... Moi, j'aimerais pas être dans les souliers du juge à Vancouver qui va devoir trancher là-dessus. Là.
T'as tellement raison, là.
Parce que, tu sais, si tu regardes la situation, là, normalement, il y a aucune raison que cette femme-là reste en prison. Elle demande sa libération le temps que les procédures... Et normalement, c'était un citoyen ordinaire, écoute... le juge dirait oui.
Mais là, on parle d'une caution de 15 millions, si je ne m'abuse.
Ben, en fait, c'est la valeur de ses maisons. Elle mettrait 1 million en argent, puis ensuite, on prend ses deux maisons à Vancouver. Elle a deux maisons, une qui vaut 4,5, puis l'autre qui vaut
Et elle a même offert d'avoir un logiciel de localisation.
Ouais. Un bracelet.
Mais c'est parce que l'affaire, c'est que pour eux autres, c'est de la petite monnaie, là. Le père de cette femme-là est milliardaire.
Ah oui.
Et s'il décide, 15 millions pour eux autres, c'est rien. Là, c'est de l'argent de poche.
C'est du petit change.
Et si le gouvernement chinois veut la ramener, là, le petit bracelet GPS, là, on va dire une chose, ça vaudra pas cher face au gouvernement chinois qui déciderait de la ramener illicitement vers la Chine.
Je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. En tout cas, c'est à surveiller parce que, dans le fond, le Canada est comme pris. Hein, on est pris peu à notre insu entre les deux éléphants. Ouais. Là,
c'est exact, entre l'arbre et l'écorce. Mais il faut dire que dans le cas de Huawei, il y a plusieurs pays qui ont commencé à se distancer, à tenter de les isoler, de les bloquer de leur réseau 5G pour des raisons de sécurité. Mm. Les États-Unis, évidemment, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre est en train de bouger là-dessus. Le Japon aussi. Et le Canada, lui, était toujours ouvert. Mais là, avec ce qui se passe présentement, mais c'est un pensée si bien parce qu'on voit qu'ils n'ont pas peur de faire rouler les muscles en dessous du chandail. Là.
Mais le problème que ça va apporter, c'est que des compagnies comme, par exemple, Bell Rogers ou TELUS et ces grandes compagnies-là qui détiennent les réseaux, qui sont en train de monter les réseaux 5G, dépendent de la technologie qui a été développée par Huawei. Donc, il y a des incidences commerciales très importantes que ça va amener aussi. Là. Ça dépasse la politique.
Autre conséquence économique, il y a un appel au boycott des entreprises canadiennes en Chine, sur les médias sociaux en Chine. Et la firme Canada Goose, hein, on a le nom Canada sur la marque, fait que c'est assez ciblé. Ça a perdu 20% de sa valeur depuis 4 jours. Sur les bourses.
Oh!
Alors,
Ils vendent beaucoup de manteaux chauds Canada Goose aux Chinois, là, c'est ça, là?
Ben oui, surtout dans le nord et dans les villes, sur côtière. C'est un produit très populaire, mais pas mal moins depuis l'arrestation de Meng Wanzhou.
OK. On s'arrête parce qu'au retour, on veut parler un petit peu de péréquation. Tu nous parlais de l'appel au boycott des produits canadiens par les Chinois. Là, il y en a qui en appellent au boycott du Québec.
Ben oui.
Hein? En Alberta, ils sont pas contents qu'on leur refuse le droit de passer sur notre terrain pour exporter leur pétrole. Fait que là, ils disent, OK, nous autres, on paye pour la péréquation, puis ils veulent pas laisser passer notre pétrole. Boycott des produits québécois. Tiens-toi, après la pause. De retour avec Louis Lacroix et Carl Bélanger. Carl, il y a un député albertain qui en appelle au boycott des produits du Québec.
Ben oui, c'est Brian Jean, qui est pas n'importe qui. Hein. C'est un ancien député fédéral conservateur sous Stephen Harper. L'ancien chef également du parti Wild Rose, qui est ce parti de plus à droite là, qui avait en fait ouvert la porte à cause de la division du vote de droite à l'élection d'un gouvernement du NPD lors de la dernière élection. Mm-hmm. Donc
là, il est député conservateur, c'est ça?
Il est député conservateur du nouveau parti Uni, sous Jason Kenney.
Ben ouais.
Et il a affiché un message sur Facebook en réaction aux déclarations de François Legault qui parlait du pétrole sale. Puis bon, cette déclaration-là a été partagée plus de 11 000 fois. Et ce qu'il dit essentiellement, c'est que s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le pétrole albertain, alors que le Québec reçoit des paiements de péréquation avec l'argent de l'Alberta, ben il n'y aura pas d'acceptabilité sociale pour les produits québécois en Alberta.
OK. Qu'est-ce qu'on leur vend, eux autres?
Ben voilà. Qu'est-ce qu'on leur vend?
Est-ce que les produits qu'on leur vend sont sales?
Ben on vend de l'assurance. 700 millions de dollars en assurance. Auto, vie, responsabilité.
Ah oui?
On vend aussi des produits agricoles, du lait, du fromage, du beurre, 450 millions de dollars. Évidemment, il y a aussi d'autres produits, la volaille, le porc, le sirop, le Québec domine le marché canadien. Donc, c'est des acheteurs. Mais en contrepartie, on achète 840 millions de dollars en gaz naturel, 800 millions de dollars de bœuf, 180 millions de dollars en produits de tabac. Écoute, c'est pas évident qu'un boycott tournerait nécessairement en faveur de l'Alberta dans ce cas-ci. Au total, là, les Albertains ont dépensé à peu près 9 milliards de dollars en biens et services produits par le Québec. Le Québec, lui, c'était autour de 6,2 milliards par année. Donc, il y a un déséquilibre en faveur de l'Alberta de 2,7 milliards, mais il y a plusieurs choses qui s'équivalent. Par exemple, en Alberta, ben, il y a WestJet. Les Québécois achètent pour 140 millions de dollars en transport aérien, principalement WestJet. Mais les Albertains utilisent Air Canada, qui est basé à Montréal, c'est 200 millions de dollars. Donc, est-ce qu'un boycott peut fonctionner? J'en doute fort. Mais il faut dire que l'Alberta a déjà fait un boycott, et avec la Colombie-Britannique, ils ont boycotté les vins de Colombie-Britannique pendant 2 semaines.
Ah ben oui! Quand la Colombie-Britannique a joué du poignet là, pour empêcher le pipeline de Trans Mountain d'arriver chez eux, dans le fond, là?
Exactement.
Et ça a marché?
Bien, ça a forcé le gouvernement de Colombie-Britannique d'envoyer le dossier vers les tribunaux. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus une décision politique, on s'en remettait aux tribunaux. Donc, l'Alberta a cessé son boycott à ce moment-là en disant, mais voilà, la Cour va nous donner raison, évidemment, alors on peut cesser notre boycott. Ceci dit, j'ai contacté l'entourage de Rachel Notley pour voir est-ce que le gouvernement de l'Alberta est prêt à embarquer dans une campagne de boycott comme ils l'ont fait avec le Colombie-Britannique dans le passé. Et on me dit absolument pas, c'est pas dans les cartes. Cependant, il est clair que si le pétrole de l'Alberta est pas assez bon pour le Québec, ben l'argent de l'Alberta non plus.
C'est ce qu'ils t'ont dit?
C'est ce qu'on me dit. On me dit, on fait un lien direct entre ça, le pétrole et la péréquation, et ils disent qu'ils ne seront pas des otages des choix politiques des autres provinces, que ce soit la Colombie-Britannique ou le Québec.
Comment tu réagis à ça, mon Louis?
Ben écoute, c'est des paroles, c'est des menaces inutiles. Écoute, le système de péréquation existe au Canada, les règles sont claires, puis ça fonctionne comme ça depuis des années. Puis on va revoir les règles prochainement, là, c'est aux 5 ans qu'on les revoit. Là.
Puis, là, en bon, 2023.
En 2023. Alors tu sais, je veux dire, ça donne l'impression qu'ils nous font la charité, alors que la péréquation, là, c'est pas un système charitable, c'est un système qui est fait... dans lequel toutes les provinces adhèrent, ça fonctionne, ça inclut les ressources naturelles. Puis c'est pas le problème au Québec si on n'a pas de pétrole chez nous. Il y en a en Alberta, ils n'ont à Terre-Neuve. Eux autres sont pas contents évidemment parce qu'ils payent. Puis quand tu reçois, ben on n'a pas à avoir honte de recevoir de la péréquation. Il y a une partie de cet argent là que c'est nous autres qui a mis dans le système de péréquation qu'on récupère. Alors, tu sais, c'est pas... Les gens pensent que c'est juste l'Alberta puis la Saskatchewan puis Terre-Neuve qui nous payent la péréquation. C'est pas vrai. Il y a une partie de notre argent là-dedans, là.
Il y a 20%.
C'est 20% de l'enveloppe de péréquation vient du Québec, puis on en récupère une partie. Alors, tu sais, il faut arrêter, je pense, de démoniser la péréquation puis de dire que c'est du BS. C'est pas vrai.
Très bien. En tout cas, on va voir si ça va se détériorer, là, parce que tu nous dis, Carl, il n'est pas question, chez Notley, chez la première ministre, il n'est pas question d'un boycott anti-Québec, mais il rajoute, on ne sera pas... comment est-ce qu'ils ont dit ça? On ne sera pas...
On sera pas tenu en otage.
On ne sera pas tenu en otage par...
Oui.
Bon, en tout cas, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais...
Bien, ça veut dire qu'ils ne se laisseront pas faire. Puis évidemment, du côté de l'Alberta, le NPD fait face à un Parti conservateur uni, comme je le disais, qui est encore plus revendicateur que le NPD. Et donc, ils doivent laisser aller de la pression pour essayer de sauver leur peau, parce que présentement, dans les sondages, on tire de l'arrière par une quinzaine de points, et ça ne sera pas évident pour un parti de gauche de l'emporter contre un parti de la droite uni.
Absolument. Louis, tu as un petit peu d'informations exclusives, me dit-on?
Oui, bien, en fait, tu sais que les maires des villes qui sont desservies par la Sûreté du Québec sont inquiets en ce moment. Parce que là, ils doivent déposer leur budget pour l'année prochaine, puis ils n'ont toujours pas reçu leur facture de la Sûreté du Québec. Alors, la Sûreté du Québec, la façon dont ça fonctionne, on donne les services aux municipalités qui n'ont pas de services de police, mais en échange, les municipalités doivent payer 53 % de la facture, puis Québec paye 47 %. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on a signé une nouvelle convention collective avec les policiers, donc ça coûte plus cher. Et les municipalités ont connu des hausses assez appréciables de leur cotisation pour la Sûreté du Québec. Et là, on craint que ça augmente encore cette année. Alors, on demandait à Québec d'avoir un peu d'air, finalement, pour parce qu'on trouve que ça commence à coûter pas mal cher. Alors, ce que j'ai appris, c'est que, bon, ils vont avoir leur facture jeudi. Ils vont savoir combien ça coûte jeudi. Et ce que va faire Québec, c'est qu'on va respecter la promesse de François Legault, qu'il avait fait en campagne électorale. On peut peut-être écouter François Legault devant l'UMQ, c'était au mois de septembre dernier.
Je m'engage à ce qu'un gouvernement de la CAQ finance 50 % des dépenses de la Sûreté du Québec. Donc ça, c'est un engagement clair. On va payer 50 %.
Alors, Mme Guilbeault, qui est la ministre de la Sécurité publique, devrait annoncer jeudi qu'on va respecter cette promesse-là. Sauf que comme à peu près toutes les promesses de la CAQ en ce moment, là, on va l'étaler dans le temps parce que faire une coupure aussi importante d'un coup, ce serait trop important justement pour les finances. Alors, puis en plus, ça prend une modification à la loi.
Okay.
Donc, on devrait apporter une modification à la loi et par la suite faire en sorte que on se retrouve avec une facture équitable, c'est-à-dire 50 % payé par les municipalités et un autre 50 % par le gouvernement pour les services de la Sûreté du Québec dorénavant.
Donc, actuellement, c'est 53-47.
Exact.
Donc, la part des municipalités diminuerait progressivement sur 4 ans de 53 à 50 %. La balance assumée par Québec d'ici 2022.
Voilà. Et les municipalités demandent ce que les augmentations soient limitées à la hausse du coût de la vie. Ça, je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais quand même, il y a une réduction de l'enveloppe totale qui va être quand même appréciable.
Très bien, très intéressant. Merci, Louis Lacroix. Donc, d'ici jeudi, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre devrait confirmer ça. Je rappelle, Louis, que tu es chef du bureau politique à Québec pour Cogeco Nouvelles. Merci.
Salut.
Carl Bélanger, consultant stratège. Merci, Carl.
Bye-bye.
On s'arrête. Au retour, on va parler avec Marguerite Blais, parce qu'elle consulte aujourd'hui pour aider les proches aidants. Vous savez, c'est un Québécois sur quatre qui est proche aidant. Et là, la ministre Blais veut essayer de trouver des manières de nous aider. On y parle tout de suite après les informations.